sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. On est ensemble et on écoute Le Monde Changer. Il est 8h.
Je ne sais pas s'il lance sa campagne présidentielle à Montpellier. En tout cas, que le chef de l'État vienne parler de sécurité à Montpellier, c'est une très bonne chose.
L'offensive d'Emmanuel Macron sur la sécurité. À un an de la présidentielle, le chef de l'État affiche fermeté et volontarisme contre le trafic de drogue et les violences, déplacement de terrain et grande interview au Figaro. Est-ce un nouveau club de riches ? Ou bien la promesse d'un grand spectacle pour tous. La Super League de football est créée par une douzaine d'équipes mythiques sous les sifflets du monde politique. Et puis, on le dira un jour, chez nous, le masque n'est plus obligatoire. C'est déjà une réalité en Israël, vous l'entendrez dans ce journal. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Emmanuel Macron lance, comme vous l'avez dit, une offensive sur les sujets sécuritaires. Une grande interview ce matin dans Le Figaro et un déplacement sur ce thème. Alors pourquoi une telle opération ? Les sujets régaliens, un talon d'Achille du président. Mon invité sur ce sujet, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Rendez-vous à 8h15.
C'est juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Il a choisi son thème, son canal de communication et son moment. La sécurité, le Figaro, le lundi du milieu des vacances scolaires, alors que dans un an, nous voterons pour le premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron sera candidat, nous disait Catherine Ney à l'instant. Et il est ce matin dans l'exercice du bilan et en même temps, celui des promesses encore tenables. Les nouveaux postes chez les forces de l'ordre. D'abord, chaque Français, confirme-t-il, verra plus de bleu sur le terrain en 2022 qu'en 2017. L'uniforme des policiers aussi, jusqu'au détail de leur calot ainsi que leur voiture. Le harcèlement, dit-il, contre les dealers ou encore la création de 15 000 places de prison.
Le chef du service politique d'Europe 1 est avec nous. Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour, bonjour à tous.
Je présiderai jusqu'au dernier quart d'heure, dit Emmanuel Macron, qui rappelle par cette interview qu'il ne va pas juste gérer la crise sanitaire.
Et oui, il connaît ses classiques de président sortant un an avant. On défend le bilan. Et pour les Français, à part la lutte contre le Covid, le thème de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme sont les sujets de préoccupation. Le président de la République apporte des réponses, annonce de renforts en policiers matériels, fermeté affichée face aux trafiquants de drogue et soutien renouvelé aux forces de l'ordre qui avaient mal pris ses déclarations sur l'existence des contrôles aux faciès. Aujourd'hui, Emmanuel Macron affirme il n'y a pas de violence policière. Un autre point symbolique, le chef de l'État a entendu l'émotion après le jugement de la Cour de cassation sur le meurtrier présumé de Sarah Halimi qui ne sera pas jugé en raison de son état mental. Il annonce son intention de changer la loi. C'est clairement un sujet de campagne présidentielle. D'ailleurs, cet entretien au Figaro est un rappel de son action depuis son élection et une manière de rappeler également que la sécurité n'est ni de droite ni de gauche.
Alors justement, visite de terrain sur le thème de la sécurité à Montpellier, ville de gauche. Et avant d'accueillir Emmanuel Macron, le maire de la ville, Mickaël Delafosse, était sur Europe 1 en direct ce matin.
Il faut être très ferme face au trafic. Parce que qui est fragilisé ? C'est les jeunes qui croient gagner plus d'argent en allant vendre ou qui se laissent détruire leurs études parce qu'ils consomment. Les habitants des quartiers où les trafiquants s'installent. Et donc, il faut être extrêmement ferme. Et je le dis d'autant plus, et j'observe que le chef de l'État partage cette analyse, que quand certains se laissent aller à l'achat d'une cocaïne récréative, eh bien, ils participent aussi à l'insécurité des quartiers populaires. Et donc là, il y a une question de responsabilité, outre une question de santé publique, évidemment.
Mickaël Delafosse, maire et président de la métropole de Montpellier, qui était l'invité du 5-7 de Sébastien Krebs sur Europe 1.
Mickaël Darmon est toujours avec nous. Ce maire à Montpellier, c'est un socialiste, et ce choix d'Emmanuel Macron d'aller dans sa ville, ce n'est pas un hasard.
Et oui, c'est une ville dirigée Montpellier par un maire socialiste qui prône, on l'a entendu, une attitude réaliste et ferme sur les questions de sécurité. L'interlocuteur idéal pour le chef de l'État, qui met en avance une référence, celle de Jean-Pierre Chevènement, désigné ce matin dans le Figaro comme son ami, un an avant l'élection présidentielle, on voit bien les contours d'un discours sur la fermeté républicaine dans cette logique posée depuis un certain temps par Emmanuel Macron. On se souvient de son discours sur la République au Panthéon. D'autant que parmi les candidats déjà lancés, Xavier Bertrand dénonce régulièrement l'échec total de Macron sur la sécurité. Il a vu les sondages, le président, il est au coude à coude avec Marine Le Pen et en fait, il y a urgence. Il ne peut pas rester immobile et face à un virus qui lui a volé le contrôle de son agenda, eh bien, il n'a pas d'autre choix. Il doit se mettre en marche, persuadé que lui seul pourra sauver le soldat Macron.
Mickaël Darmon, chef du service politique de la rédaction.
Et ce matin, on se projette sur les élections régional, avec ce nouveau sondage Europe 1 La Tribune réalisé par l'IFOP.
Il y a 2 mois de l'échéance en Normandie, le président sortant Hervé Morin pour la droite et le centre est en tête, 31% d'intention de vote, challengé par Nicolas Bay du Rassemblement National à 26%. Là aussi, la politique n'est pas loin, mais le business semble l'emporter avec ce communiqué envoyé à minuit pile par 12 grands noms du foot européen, du Real à la Juve, de l'Atlético à Chelsea. Il y a aussi les deux Manchester et les deux clubs milanais. Après des années de discussion, ils lancent leur Super League.
Et ce n'est pas un hasard de calendrier, hein, si c'est aujourd'hui que doit être entérinée une réforme de la Ligue des Champions, Cyril de la Morinerie.
Oui, c'est un bras de fer entre les clubs les plus riches et l'UEFA qui organise la lucrative Ligue des Champions. Le Real Madrid, Manchester United et la Juventus de Turin notamment lorgnent sur ce jackpot, d'autant qu'avec la pandémie, certains clubs sont dans le rouge, d'où leur idée de créer une ligue fermée, explique l'économiste du sport Vincent Chaudel.
Les clubs, y compris les grands clubs, ont de grandes difficultés économiques. Un seul exemple, le FC Barcelone qui a plus d'un milliard de dettes, et donc évidemment qu'ils cherchent à développer leurs recettes. Une formule de ligue fermée garantirait encore plus d'argent à ces clubs-là.
Dans cette nouvelle compétition entre clubs super riches, chaque participant pourrait toucher 350 millions d'euros par an, soit 4 fois plus que ce que gagne aujourd'hui le vainqueur de la Ligue des Champions. Mais l'UEFA qualifie ce projet de cynique et menace les clubs concernés de les exclure de toutes les compétitions existantes. Le PSG a confirmé à Europe 1 qu'il n'a pas l'intention d'y participer. D'ailleurs, l'Allemagne et la France sont sur cette ligne. L'Élysée a rappelé sa ferme opposition à cette Super Ligue européenne qui mettrait un terme au mécanisme de solidarité.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1, 8h07.
Une bouffée d'air frais en plein visage, pouvoir parler tout en marchant sans être essoufflé, ni devoir rectifier la position de ce petit élastique là derrière l'oreille. Bref, la vie sans masque, encore au stade de science-fiction chez nous, c'est une réalité depuis hier dans les rues en Israël, pays le plus vacciné au monde.
Clotilde Mravko est avec nous depuis Jérusalem. Bonjour Clotilde.
Bonjour.
Ça y est, 24 heures sans masque chez vous. On imagine que l'état d'esprit général, l'ambiance, ont changé en même temps.
Eh bien, il y a une sorte de légèreté retrouvée ce matin dans les rues de Jérusalem. Beaucoup d'Israéliens me parlent d'un grand sentiment de liberté. Je suis dans l'une des principales artères piétonnes de la ville et on peut enfin voir des rires, des sourires de passants. Rares sont ceux qui ont gardé le masque malgré tout. Noy Toren, une étudiante de 29 ans, l'a d'ailleurs tout de suite retiré hier quand la mesure est entrée en vigueur.
I can breathe again.
Je peux respirer à nouveau. Je peux mettre du rouge à lèvres. C'est bizarre, je n'ai plus l'habitude de voir le visage des gens. J'ai réalisé ça en voyant les gens sourire. C'est génial, c'est magnifique de voir à nouveau les gens.
Tout ceci est possible car 81% des Israéliens et des résidents dans le pays ont été vaccinés. Le port du masque est encore obligatoire dans les transports en commun et à l'intérieur des bâtiments. Les autorités veillent car le pays a peur des variants, notamment celui venu d'Inde, qui pourrait être résistant au vaccin.
Clotilde Mravko en ligne de Jérusalem pour Europe 1. La vaccination en France, ce sont 12,5 millions de personnes désormais qui ont reçu au moins une dose.
Et on apprend ce matin que les études d'infirmiers sont plébiscitées sur Parcoursup. C'est la formation la plus demandée sur la plateforme d'orientation vers les études supérieures.
Et ce, pour la 3e année consécutive, 10% des lycéens ont fait ce vœu. Anne Le Gall, la crise sanitaire n'a pas découragé les vocations.
Absolument. L'année dernière, un candidat sur 20 seulement a pu décrocher sa place. C'est le cas de Bertille et Marion, aujourd'hui en première année. La pression sur les hôpitaux pendant le confinement ne les a pas découragés, au contraire.
Ça fait que confirmer mon choix que je voulais être utile pour les autres, que je voulais être là, présente, aider les autres pour les soigner.
Parce qu'on se rend compte que vraiment, on a besoin de nous, on a besoin de soignants. Et justement, c'est une motivation supplémentaire, je trouve.
Et en première année, il y a eu l'apprentissage des premiers gestes techniques, toilettes, pansements, prise de sang, avec des stages à l'hôpital et en EHPAD, un peu particulier à cause du Covid.
C'était pas facile et en même temps, on était utile pour ce deuxième confinement.
Alors moi, j'ai été confrontée à la mort, mais en fait, très bien entourée par l'équipe à l'EHPAD. Donc faut s'y faire. Je pense qu'on s'habitue jamais, mais faut s'y faire.
Et leur emploi d'infirmière est quasi assuré en fin d'études. Certes, la réalité du métier, ce sont aussi des journées de travail très chargées, m'a confié Bilal, diplômé l'année dernière. Mais le gouvernement vient d'annoncer un coup de pouce sur les salaires. 290 euros net de plus par mois en début de carrière.
Les précisions d'Anne Le Gall pour Europe 1. Son état de santé influe directement sur le niveau de tension diplomatique entre la Russie et le reste du monde. Alexandre Alexei Navalny, empoisonné l'été dernier dans son pays, soigné en Allemagne, retourné à Moscou, arrêté, emprisonné et en grève de la faim depuis des semaines.
Quand des médecins proches de son mouvement s'inquiètent d'un possible arrêt cardiaque d'une minute à l'autre, de nombreux États étrangers protestent. Jean-Jacques Herry.
À Berlin, on réclame de manière urgente un traitement médical adéquat pour Alexei Navalny. À Paris, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian pointe la responsabilité majeure du président Vladimir Poutine. Et à Washington, Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale, menace les autorités russes sur CNN.
Il y aura des conséquences si M. Navalny meurt.
Quant à l'Union européenne, elle souhaite sa libération immédiate et sans condition. Pour le moment, pas de réponse directe du Kremlin. Seule prise de parole, celle de l'ambassadeur russe à Londres sur la BBC.
Navalny se comporte comme un hooligan, mais on ne le laissera pas mourir en prison.
En effet, pour Florent Parmentier, chercheur au Cevipof, la Russie ne peut pas se le permettre. Mais ce ne sont pas les injonctions occidentales qui feront céder Vladimir Poutine s'il cède, mais bien des raisons de politique intérieure.
Il n'est pas nécessairement dans l'intérêt du pouvoir central russe de perdre Alexei Navalny et certainement pas en prison. Ça risque de mener à d'autres formes de remise en cause plus radicales du pouvoir en interne, par la population même.
C'est ce levier que les proches d'Alexei Navalny s'efforcent d'enclencher. Ils ont appelé à une grande manifestation dans toute la Russie ce mercredi pour sauver la vie d'un opposant qui pourrait devenir un martyr.
L'éclairage de Jean-Jacques Herry pour Europe 1.
Un nouvel accident mortel impliquant une Tesla. Ça s'est passé aux États-Unis samedi soir.
Oui. Deux hommes ont perdu la vie alors que la voiture dans laquelle ils se trouvaient s'est écrasée contre un arbre et a pris feu. Aucun des deux ne semblait assis sur le siège conducteur, ce qui pose la question de l'autopilote, ce système de conduite par ordinateur. Et puis une excellente nouvelle dans le sport, pour ne pas dire une bonne surprise, s'agissant de la participation de Roger Federer à Roland-Garros, le géant absolu du tennis, 20 tournois du Grand Chelem à son actif, sera bien là, il l'a confirmé hier soir pour l'ex-tennisman Cédric Pioline. Roger Federer ne revient pas pour faire de la figuration.
C'est une très bonne nouvelle pour le tournoi, c'est une très bonne nouvelle pour les fans. Ça montre qu'il a de l'envie, qu'il croit toujours qu'il peut être compétitif, même sur terre battue où c'est toujours un petit peu plus compliqué. Il est un petit peu à court de compétition, hein, du fait de cette blessure, évidemment de la pandémie également. Je le sens pas en tout cas dans cet état d'esprit de se dire je viens me montrer une dernière fois. Donc je pense vraiment qu'il revient à Paris parce qu'il se sent compétitif, qu'il a envie de disputer ce tournoi et de bien y figurer.
Il se sent compétitif, Roger Federer. C'est ce que nous dit Cédric Pioline. Et vous savez quoi ? On va suivre ça sur Europe 1, puisque c'est la radio officielle du tournoi de Roland-Garros qui commence le 30 mai.
Et où est-ce que vous vouliez suivre ça d'autre, François ? Évidemment. Merci beaucoup, François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Très bon réveil à tous.